Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un invité de marque aujourd'hui pour notre rendez-vous au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. J'ai commencé cette année 2014 en rendant hommage à l'équipe du professeur Fabiani de l'hôpital Georges Pompidou pour son exploit chirurgical, la première greffe au monde d'un cœur autonome. Eh bien Jean-Noël Fabiani est avec nous dans ce studio pour parler du plus célèbre de tous les médecins, d'un des plus célèbres en tout cas, le maître de la médecine antique, Claudius Galenus, qu'on connaît sous le nom de Galien de Pergame.
Et pour rester dans cette note médicale, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question qu'a posée Nathanaël sur le site d'Europe 1.
Nathanaël voudrait savoir s'il y a un lien entre la maladie qu'on appelle la coqueluche et l'expression « avoir la coqueluche » pour quelqu'un. Il y a un lien, bien sûr, mais vous allez voir que ça n'est pas aussi évident que ça pourrait le paraître. Pour le moment, je vous propose d'aller à la rencontre d'un certain nombre de médecins qui exerçaient au moment où les sacro-saintes théories médicales de Galien ont commencé à être remises en cause, c'est-à-dire au tout début de la Renaissance. Il n'y a rien de plus passionnant, tout compte fait, que ces grandes idées qui s'imposent envers et contre tout.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
C'est à la fin du XVe siècle, en 1487 exactement, que Léonard de Vinci entreprend de disséquer des corps humains avec le projet de réaliser un traité d'anatomie. Il n'est pas le premier à le faire, mais il est de très loin le plus célèbre. Dans cette entreprise périlleuse, le savant, le curieux en lui sont peut-être moins motivés que l'artiste, persuadé qu'on ne pourra jamais représenter parfaitement l'enveloppe du corps tant qu'on ne saura pas précisément ce que contient cette enveloppe. Je parle d'entreprise périlleuse car évidemment à l'époque, ouvrir un corps humain est considéré comme un sacrilège, une transgression suprême, c'est un tabou religieux. Il faut donc procéder de nuit, dans des caves, sur des corps de condamnés fraîchement exécutés, achetés à prix d'or chez les bourreaux. Beaucoup de soufre donc est la plus glauque des ambiances. Mais me direz-vous, si la dissection humaine est prohibée, comment fait la médecine pour progresser ? Eh bien d'abord, elle ne progresse pas, ou disons qu'elle progresse peu à cette époque. Le savoir est réputé acquis une fois pour toutes, les grands anciens ont réfléchi pour le restant des siècles, et dans le domaine qui nous intéresse, le grand ancien s'appelle Galien. Mais tout de même, cette fin de Moyen-Âge est agitée de tout un bouillonnement d'interrogations, elle est tenaillée par un incroyable besoin de savoir et d'expérimenter. Alors, on ouvre des animaux, ça c'est permis, au grand jour, et puis quelques humains secrètement la nuit. Autant dire que les grands principes de Galien, plus ou moins incontestés jusqu'alors, plus ou moins, nous verrons ça tout à l'heure, ces grands principes ne vont pas tarder à être battus en brèche. Alors qui est-il ce fameux Galien ? C'est ce que nous allons voir dans un petit moment avec le professeur Fabiani. En deux mots, disons qu'il est né en 131 à Pergame, en 131 de notre ère. Hein. Pergame, c'est en Asie mineure, c'est au sud de Constantinople, si vous voulez. Il est issu d'une famille de notables. D'ailleurs, on lui fait suivre d'assez hautes études de lettres, hein, des études de philosophie, avant des études de médecine à Smyrne. Déjà jeune, on sait que ce médecin dans l'âme aime à observer les techniques médicales d'anatomie de l'époque. Il va voyager pendant 10 ans autour de la Méditerranée. On le retrouve à Corinthe, à Alexandrie, afin d'élargir ses connaissances auprès des médecins les plus réputés de l'époque. Et en 160, il devient médecin de l'école des gladiateurs de Pergame. Et là, ça va être très important pour lui, car il va faire, en soignant les gladiateurs, hein, il est leur soigneur en même temps que leur médecin et leur chirurgien, il va faire, et il est très jeune, ça c'est assez étonnant, à 22 ans, on le nomme seul médecin pour tous les gladiateurs de Pergame, c'est très important, il va faire des découvertes, c'est ce que nous apprend Véronique Boudon-Millot dans sa très belle biographie Galien de Pergame, un médecin grec à Rome. Je dis très belle biographie, publiée par les Belles Lettres, mais d'un niveau, si je puis dire, pas toujours très accessible. C'est un texte assez relevé que celui de Véronique Boudon-Millot. Voilà ce qu'elle nous dit. Les nombreuses contusions endurées par les gladiateurs permirent à Galien de mettre à l'épreuve ses connaissances anatomiques en vérifiant par exemple qu'une blessure intervenue dans le dos près de la moelle épinière, là où les nerfs tirent leur origine, pouvait entraîner des lésions dans des membres parfois très éloignés, les pieds, les mains, les doigts. Ces accidents très fréquents, qu'il ne suffirait pas d'une journée pour tous les mentionner et qui entraînent la paralysie totale ou l'insensibilité d'une partie, sont, note-t-il, particulièrement observables, je cite, chez les soldats blessés à la guerre et chez ceux que l'on appelle les gladiateurs. Eh bien, sa fonction de médecin des gladiateurs, en lui donnant l'opportunité d'observer certaines parties internes du corps humain, a donc également permis à Galien d'approfondir ses propres connaissances anatomiques. Ces connaissances-là, évidemment, il va constamment chercher à les compléter, à les approfondir. En 169, l'empereur, le philosophe, vous savez, Marc Aurèle, le grand empereur romain, va engager Galien comme médecin personnel. Et il fait donc, on peut dire à partir de ce moment-là, il fait partie de la haute société romaine et il organise notamment dans le temple de la paix des expériences notamment de dissection d'animaux et même d'animaux vivants. À ce moment-là, on parle de vivisection. Voilà ce que nous dit là encore sa biographe. Les récits enthousiastes que nous a laissé Galien ici et là de ses démonstrations d'anatomie, démonstrations parce que c'était de véritables publics, hein, pourraient laisser penser qu'elles étaient choses courantes et relativement fréquentes. En réalité, sans parler des dissections humaines qui étaient pratiquement inexistantes, tout semble indiquer que les vivisections animales étaient elles-mêmes suffisamment rares pour constituer un événement. Elle nous donne quelques exemples et ajoute « Bien que Galien désigne la dissection pratiquée sur les animaux morts et la vivisection pratiquée sur les animaux vivants par le même mot d'anatomé, il effectue cependant une distinction précise entre séances privées et publiques. Si les dissections privées auxquelles il se livre à titre d'entraînement personnel ou qu'il organise pour ses étudiants paraissent avoir été relativement fréquentes, les vivisections publiques, telles que celles pratiquées à la demande de Boétius, notamment, furent certainement beaucoup plus rares. Dissection et vivisection n'ont d'ailleurs pas même valeur. Tandis que la première enseigne la connaissance anatomique des parties du corps, la seconde renseigne sur les fonctions remplies par les différentes parties. C'est là que la médecine, en quelque sorte, entre en jeu. En tout cas, ces dissections vont permettre à Galien d'étudier le système nerveux. Il tente d'expliquer le contrôle des muscles par les nerfs qui partent de la moelle épinière, je l'ai dit tout à l'heure. Ça lui permet d'observer les fonctions du rein, de la vessie. Il estime que le foie est l'organe central de l'appareil circulatoire. Ah, et que le sang part du foie vers la périphérie. On va revoir tout ça tout à l'heure, évidemment, avec Jean-Noël Fabiani. Il croit que les principales causes des maladies sont les excès d'humeur. Alors on va voir d'où elles viennent, ces humeurs, vous savez, c'est la théorie des humeurs d'Hippocrate, et que tout est dû, quand ça va mal, à des altérations de ces humeurs. Et pour se protéger contre les poisons, mais aussi pour soigner quasiment toute forme de maladie, pour calmer les souffrances, c'est lui qui va mettre au point et qui va préparer la fameuse thériaque, cet antidote utilisé par Mithridate. La formule de Galien comporte 70 ingrédients, dont certains ingrédients qui sont pas très médicaux comme ça quand on le dit, de la chair de vipère, alors il y a du vin, du miel, toutes sortes de plantes médicinales, et il y a même, c'est peut-être en cela que ça apaise les douleurs, 24 onces d'opium.
l'heure sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Gladiator, réalisé en 2000 par Ridley Scott. Nous revenons à la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur Galien de Pergame.
Alors, ce qui est important concernant Galien, c'est l'incroyable production de textes qui est la sienne. Environ 500 textes sur la médecine, la philosophie et l'éthique. Une grande partie de ces textes fondateurs a été détruite en 192, au moment de l'incendie du Temple de la Paix, où se trouvait la bibliothèque Galien. Mais 83 ouvrages ont survécu, si je puis dire, et sont considérés comme authentiques. Galien mourra à Rome ou à Pergame, on n'est pas tout à fait certain, au tournant du siècle, probablement en 201 de notre ère. Or, et c'est ce qui va m'intéresser moi maintenant, 13 siècles plus tard, à la Renaissance encore, Galien reste le maître incontesté, avec Hippocrate, évidemment. C'est la grande figure de la médecine antique, reconnue pour ses études anatomiques sur les animaux, pour ses observations des fonctions du corps humain, etc. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on s'en remet toujours à Galien ? Eh bien précisément parce que les cultures judéo-chrétiennes et musulmanes sont extrêmement réticentes envers les autopsies, donc on préfère travailler sur des textes, en l'occurrence, ce qui fait qu'on recopie, jusqu'à satiété les textes anciens, pendant longtemps à la main. C'est pourquoi, par exemple, en 1395, la bibliothèque de l'école de médecine de Paris ne possède que 9 ouvrages, vous voyez. C'était évidemment des ouvrages très épais qu'il fallait entièrement copier à la main. Et puis va venir l'imprimerie, évidemment, les livres seront de plus en plus abordables, de plus en plus nombreux. Et ça, c'est un paradoxe. Jamais Galien n'a été aussi publié qu'au moment même où l'on va commencer à remettre en cause un certain nombre de ses grands principes. C'est qu'à côté de cela, la discipline médicale a tendance à se développer, notamment à Paris. Au XVIe siècle, il n'y a pas autant de médecins que ça, finalement. On en compte 72 à Paris en 1550 pour une population d'environ 300 000 habitants, vous voyez. Comment est-ce qu'on le sait? D'abord grâce à Laurent Joubert, dans son ouvrage « Erreurs populaires touchant la médecine et le régime de la santé », un ouvrage de la fin du XVIe siècle, il décrit la vie, les mœurs des médecins de son temps. Il nous raconte les journées surchargées, le médecin qui commence ses visites dès 5 heures du matin et qui va les faire tard, jusque presque midi, puis 2 heures de repos avant de se remettre en route. Et alors la tournée se poursuit ensuite jusqu'à au moins 5 heures du soir, ce qui fait au moins 10 heures de travail à domicile, au chevet des patients, et puis ensuite de nouveau 2 heures de pause, et puis de 5 heures à, alors là souvent tard dans la nuit, le médecin va répondre aux besoins de ses patients de la nuit. C'est un sacerdoce incroyable d'être médecin à la Renaissance. Comment sont-ils habillés, ces médecins, d'après le costumier Albert Racinet, qui est un docteur de la fin du XVIe siècle? Le médecin est vêtu d'une soutane noire courte, boutonnée de haut en bas et descendante un peu au-dessous du genou, le tout agrémenté d'une large ceinture noire et d'un manteau noir qui descend, lui, jusqu'aux pieds. Et il porte également des gants jaunes, des manchettes, un col rabattu par-dessus le collet d'hermine et un chapeau à large bord. Les chirurgiens essaient d'imiter les médecins, mais vous savez que la corporation des barbiers chirurgiens est très distincte et qu'elle n'est pas très avantagée, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Certains médecins fument leurs habits, soit avec de la poudre de Chypre, soit avec de la poudre de violette. Quant au prix de la consultation, il varie en fonction du lieu, mais aussi de l'état de fortune du malade. La réputation du médecin peut aussi entrer en jeu. Rappelez-vous, j'avais eu l'occasion de vous parler des maladies d'Henri II, et notamment de l'extraordinaire, des circonstances épouvantables de son agonie. Il avait, lui, les meilleurs médecins. Et le premier médecin d'Henri II reçoit 1200 livres, ses médecins ordinaires 800 livres par an, tout ça. Et le premier chirurgien 800 livres également, ce qui veut dire qu'ils sont, eux, très richement appointés. Les médecins de ville pratiquent des tarifs nettement plus bas. À Lille, en 1595, Jean Bridoul se contente de 16 sols, en l'occurrence par consultation. Laurent Joubert évalue la consultation moyenne à 10 écus, ce qui est un prix raisonnable. Mais les médecins ne sont pas encore des gens très fortunés. Alors, il y a aussi de temps en temps des conventions, vous savez, entre les médecins et les municipalités, parce que les médecins s'occupent notamment font des consultations déjà à l'Hôtel Dieu, dans les hôpitaux. En 1570, un médecin de Colmar logé aux frais de la ville touche une indemnité annuelle de 4 cordes de bois plus 32 florins d'argent à la condition de pratiquer des prix bas auprès de sa clientèle. C'est-à-dire qu'il est, ce médecin-là, tout simplement subventionné. Dans son ouvrage « Hygiène », écrit à la toute fin du XIXe siècle, Alfred Franklin, qui s'est beaucoup occupé d'histoire de la médecine, décrit ainsi cette vie au XVIe siècle, je cite, « l'absence des fosses d'aisance, la fétidité des égouts, la malpropreté des rues, la misère et ses conséquences, le mépris des soins de toilette les plus élémentaires, tout cela concourait à engendrer dans Paris les épidémies et à entretenir pendant de longs mois ces maux. Mais elle procédait encore d'une autre cause aussi terrible dans ses effets et à laquelle les hygiénistes du XVIe siècle semblent avoir attaché peu d'importance. Je veux parler des inhumations. Mais oui, évidemment, car on enterrait un peu n'importe comment. On se rappelle ces odeurs nauséabondes qui s'échappaient notamment du cimetière des innocents. De grands médecins de cette époque, je pense à Fernel, qui était une sorte de génie dans son genre, mais aussi Houillet, indiquent dans un rapport, je cite, qu'en temps dangereux, les maisons prochaines aux 10 cimetières, donc celles qui sont voisines, si vous voulez, ont toujours été les premières et les plus longtemps infectées de la contagion que les autres de la ville. On commence ainsi à faire quelques observations. Pour le reste, Galien, Galien et encore Galien.
N'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, c'est la suite de votre récit Franck Ferrand sur le plus célèbre médecin de l'Antiquité, Galien de Pergame. Nous sommes au cœur de l'histoire et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie du médecin Galien de Pergame.
Alors, cette vie du médecin Galien, on va y venir avec Jean-Noël Fabiani. Ce que j'essaie de voir, c'est quelle est son influence aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais dans les temps modernes, sur tous les médecins, notamment de la Renaissance. Galien était enseigné, bien entendu. Il y avait deux grandes écoles de médecine à la Renaissance, qui étaient Paris et bien entendu Montpellier. Vous savez, la grande ville médicale, c'était les deux rivales qui avaient une belle réputation l'une et l'autre dans toute l'Europe. Il y avait d'autres écoles en France, hein, à Orléans, Bourges, Angers, Poitiers. Mais le diplôme avait nettement moins de valeur. Il permettait en quelque sorte aux médecins d'exercer essentiellement dans leur région. À la fin du XVe siècle, si vous vouliez être considéré comme un grand médecin, il fallait être diplômé soit de Montpellier, soit de Paris. Alors les cours sont obligatoires, bien entendu. Ils commencent à la mi-novembre jusqu'à fin juin, un peu comme aujourd'hui. Ils ont lieu tous les jours, hormis les fêtes religieuses, mais il faut savoir que les fêtes religieuses sont extrêmement nombreuses à cette époque-là. Le cursus médical s'effectue en 5 années d'études où l'on apprend l'anatomie, la physiologie, la botanique, l'hygiène et le régime. Si vous voulez, c'est un développement de l'hygiène. Alors, ces cours sont théoriques, bien entendu, et ils sont fondés essentiellement sur Galien. Certes, on parle d'Hippocrate, de Philarète, de Théophile ou bien sûr du médecin perse Avicenne, mais c'est Galien qui est au cœur. Galien reprenant lui-même la théorie des humeurs d'Hippocrate, on va y venir tout à l'heure. On enseigne donc la médecine en langue latine. On va voir d'où vient le grec tout à l'heure et d'où viennent toutes ces appellations grecques, mais en fait, l'enseignement s'effectue en latin, avec constamment, si je puis dire, Galien sous les yeux. Alors vous passez un certain nombre d'épreuves. Après le baccalauréat S.A.R., les élèves peuvent donner des cours publics pendant 3 mois en présence d'un professeur. Ils sont interrogés d'ailleurs par un collège de professeurs. Et puis s'ils réussissent, alors ils doivent présenter ce qu'on appelle les triduanes, qui, comme leur nom l'indique, se déroulent sur 3 jours. Et chaque jour, vous avez 6 examens à passer. Et si vous obtenez l'approbation des 2/3 du collège des professeurs, alors vous êtes docteur en médecine. On est donc dans un ressassement de savoir, encore une fois, directement lié à Galien. Et puis, à partir du milieu du XVe siècle, avec la Renaissance italienne, en France, il va falloir attendre 1478 pour assister à la première dissection humaine. Mais vous avez des médecins qui vont essayer de braver un peu l'interdit, d'aller plus loin et de faire des dissections. Les premières ont eu lieu à Bologne. Il y en a eu un certain nombre dans plusieurs villes d'Italie. À Padoue, en 1584, on va carrément construire un amphithéâtre spéciale hein, pour permettre aux élèves d'assister à des dissections humaines. En France, ça vient de façon beaucoup plus hésitante. Il faut arriver à braver les interdits. Voilà ce que dit Félix Plater. Avant tout, je désirais connaître l'anatomie. Je ne manquais donc jamais d'être présent lorsqu'on pratiquait en cachette l'ouverture d'un cadavre. Dans les commencements, l'opération me parut repoussante. Néanmoins, avec quelques étudiants, je courus plus d'un risque pour obtenir des sujets. Ben oui, parce que pour pouvoir disséquer des cadavres, encore faut-il les obtenir, les fameux cadavres. Alors c'est toute une histoire, ça, bien entendu. Les premières dissections en France se font, et alors ça c'est intéressant, il faut bien en avoir conscience, elles se font avec le galien à la main. C'est-à-dire que le professeur, d'un côté, ouvre le corps, mais tout ce qu'il montre est en rapport avec Galien. D'une main, il montre aux étudiants sur le corps disséqué, et de l'autre, il suit les lignes où Galien fait lui-même ses propres descriptions. Alors évidemment, il arrive assez fréquemment qu'il y ait une différence, qu'il y ait des anomalies, que ce que les gens ont sous les yeux ne ressemble pas à ce que raconte Galien. Eh bien, dans ce cas-là, et c'est intéressant de le souligner, dans ce cas-là, on donne raison à Galien. C'est tout juste si l'on ne prétend pas qu'on aurait sous les yeux un corps humain qui ne serait pas conformé comme les autres. Voyez la force, l'incroyable pesanteur de ces siècles de tradition médicale. Le premier à réaliser qu'il y a vraiment trop de différence entre ce que dit Galien et la réalité, c'est l'un des grands chirurgiens de la Renaissance avec Ambroise Paré, c'est Vésale. Vésale va admettre que Galien a très bien observé les animaux, mais il affirme que ses enseignements sont faux pour ce qui concerne les hommes. Il en a eu la révélation très tôt lorsqu'il était lui-même étudiant. Hein. Il commence à le dire lorsqu'il a 25 ans. Mais la remise en cause complète de Galien, elle va demander beaucoup plus de temps que ça, bien entendu. Vésale publie son ouvrage « De humanis corporis fabrica » en 1543 et c'est un livre qui fait un scandale considérable. Il est du reste contraint à quitter sa ville. Il va même quitter la péninsule italique. Il ne rejette pas tous les fondements de la tradition antique, pour autant Vésale. Il reste galieniste, si vous voulez, pour l'essentiel, mais il reconnaît que Galien a commis des erreurs et il ose le dire. Il va être, vous savez, le grand chirurgien du XVIe siècle. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. Il fait partie de ceux qui ont fait avancer la connaissance. Alors, il y en a d'autres, bien entendu. Je pense à la découverte de la circulation pulmonaire par Michel Servet. On va y venir tout à l'heure aussi avec Jean-Noël Fabiani. Je pense à Paracelse qui se met à critiquer, alors lui, ouvertement un certain nombre des médecins antiques. « Vous qui, après avoir étudié Hippocrate, Galien et Avicenne, dit-il à ses confrères médecins, croyez tout savoir, dites-vous que vous ne savez encore rien. Vous voulez prescrire des médicaments et vous ignorez l'art de les préparer. La chimie vous donne la solution de tous les problèmes de la physiologie, de la pathologie et de la thérapeutique. En dehors de la chimie, vous tâtonnez dans les ténèbres. » Il va scandaliser, évidemment, en brûlant ce Paracelse, en brûlant publiquement, entre autres, les écrits de Galien. Vous voyez qu'il y a quand même une sorte de guerre, en quelque sorte. On peut dire que les praticiens de la Renaissance, qui travaillent de plus en plus à partir du concret et à partir d'expériences, remettent profondément en cause ce qui, jusqu'alors, était considéré comme le nec plus ultra, comme ces travaux de Galien. Alors, quelle était la part dans ce que dit Galien du bon et du mauvais, du vrai et du faux? Pourquoi ce Galien s'est-il à ce point imposé à tous les médecins pendant tant de siècles? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Bonjour Jean-Noël Fabiani.
Bonjour.
À titre de préambule, je peux vous poser une toute petite question. Est-ce que vous utilisez Galien, vous, encore aujourd'hui?
Pas véritablement, non. Il n'est plus vraiment d'actualité.
Non, il est dépassé, on va dire. Nous allons voir pourquoi, mais nous allons voir aussi pourquoi il a été aussi important de son vivant et surtout dans sa longue, immense postérité.
Et nous sommes au cœur de l'histoire de la vie du médecin Galien de Pergame avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Jean-Noël Fabiani, chef de chirurgie à l'hôpital européen Georges Pompidou.
Chef de service, oui, de...
où il dirige le département de chirurgie cardiovasculaire. Voilà, auteur des histoires insolites qui ont fait la médecine, tome 1 et 2 aux éditions Plon.
Merci beaucoup Jean-Noël Fabiani d'être venu. Vous êtes très occupé, on le sait, mais vous êtes aussi un grand historien de la médecine. Et ça, vous nous le faites découvrir d'émission en émission. Et puis, j'ai l'occasion de vous le dire de vive voix, bravo pour cet extraordinaire exploit qui,
merci beaucoup,
une fois de plus, place la chirurgie française au tout premier rang. C'est magnifique ce que vous faites. J'avoue que je pense traduire la pensée de tous nos auditeurs en disant que nous sommes tous très admiratifs. Alors venons-en à ce fameux Galien, qui n'a plus très bonne presse aujourd'hui après avoir été considéré comme l'alpha et l'oméga de la médecine, bien entendu. J'ai dit qu'il était né en Asie mineure, ce qu'on appelle nous la Turquie aujourd'hui, à Pergame, probablement, on va dire, dans les années 130 de notre ère, donc dans l'époque de l'Empire romain, dans un bon milieu, etc. Il était très précoce et il manifeste très tôt une intelligence hors du commun.
Oui, c'est un surdoué, comme on dirait maintenant.
Ça, voilà.
Il fait tout. Il est théologien, il est médecin, et il va surtout être un monstre de travail. Un monstre de travail et d'écriture, vous l'avez dit tout à l'heure, on lui prête, bon, prête corrige, bien sûr, au moins 500 traités de médecine. La plupart ont brûlé, comme vous l'avez dit, mais il en reste au moins 80. Aujourd'hui.
Il y a deux très grands auteurs comme ça qui sont chez nous, si je puis dire, en Occident, Galien, et en Orient, Ibn Sina, qu'on appelle Avicenne, qui est un peu le Galien oriental en quelque sorte, qui d'ailleurs va beaucoup s'inspirer de Galien, il faut le dire.
Qui va transmettre beaucoup de choses de Galien, et beaucoup de notions galéniques nous sont venues par l'intermédiaire des Arabes.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec la biographie de Galien lui-même, c'est qu'on découvre, et je rappelle encore l'existence de ce livre aux belles lettres, Galien de Pergame, un médecin grec à Rome, de Véronique Boudon-Millot, c'est qu'on découvre que sa précocité est aussi la précocité d'un médecin, c'est-à-dire qu'on lui confie très tôt des missions importantes, puisqu'à 22 ans, il devient médecin des gladiateurs de Pergame, donc c'était très important.
Et pourtant, dans sa vie, ça n'est pas la partie chirurgicale va s'exprimer.
C'est d'autant plus étonnant.
Et c'est d'autant plus étonnant que lorsqu'on va parler tout à l'heure de la circulation sanguine vue par Galien, on est étonné qu'il n'ait pas vu les plaies que subissaient ces pauvres gladiateurs, des artères coupées qui jaillissaient en saccades avec du sang rouge. Et ça, manifestement, ça ne se traduit pas du tout dans sa théorie.
C'est quand même étrange. Pourtant, il l'a eu sous les yeux, il l'a vu très souvent.
Obligatoirement, il l'a sans doute soigné, il a doute comprimé ses artères, il a empêché le sang de s'écouler, et pourtant, il va dire qu'il ne circule pas.
Alors, en travaillant avec ces gladiateurs, on peut dire aussi qu'il est en présence d'échantillons d'humanité qui ne sont pas très représentatifs, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il a affaire à des gens d'une résistance, d'une force, absolument hors du commun. Ce sont les grands athlètes de l'époque,
bien entendu.
C'est sûr. Et ça a sans doute orienté son jugement sur un certain nombre de choses.
Certainement. Vous savez, il a eu des jugements sur tellement de choses, Galien, parce que je ne sais pas quel domaine il n'a pas touché. Bien sûr, il va être le plus grand pharmacien de son temps, le plus grand médecin et, dans une certaine mesure, le plus grand philosophe.
Alors, on va venir tout à l'heure à l'auteur, au philosophe et à toute sa postérité, bien entendu. Ce que j'aimerais comprendre aujourd'hui, c'est ce que Galien doit à Hippocrate, qui était venu avant et qui est, lui, le fondateur de cette théorie des humeurs. Expliquez-nous peut-être ça.
Oui, alors, ce sont des Grecs. N'oubliez pas que Galien est grec et que chez les Grecs, le système doit toujours primer sur, à la limite, l'observation. Et alors, il est tout à fait dans la mouvance d'Hippocrate. Et Hippocrate, eh bien, comme tous les Grecs, il y a quatre éléments sur Terre qui sont l'eau, l'air, la terre et le feu. Il y a donc quatre humeurs qui sont chez l'homme et qui font la santé. Alors, ces quatre humeurs, on les connaît. Il y a le sang, c'est facile. La bile, c'est facile, on sait ce que c'est. La pituite, c'est la lymphe. On devine ce que c'est aussi. Et puis, il y a la mystérieuse, la trabile, ou mélancolée, c'est-à-dire la mélancolie, la bile noire. On ne sait pas très bien ce que c'est, et pourtant, elle fait partie des quatre humeurs.
Et non seulement elle fait partie, mais c'est un peu elle qui est à l'origine d'un certain nombre de dysfonctionnements et de maladies, non?
Non, pas tellement, non. Il y a un type humain qu'on appelle le mélancolique, qui est triste et déprimé, qui est sous l'influence de la bile noire, alors que le phlegmatique est sous l'influence de la lymphe, alors que le sanguin, lui, est sous l'influence du sang, et que lui est aimable et fort, et puis que le colérique, eh bien, lui, emporté, toujours prompt à réagir, est sous l'influence de la bile. Donc, on voit bien comment on voit le monde.
Ça, c'est une constatation empirique
au
départ.
Tout à fait empirique. Alors, quand ces humeurs ne sont pas en équilibre, il y a des humeurs piquantes. D'ailleurs, Molière en parle. Le médecin, malgré lui, il faut chasser les humeurs piquantes. Alors, il faut chasser quoi? Quand ça va pas, il faut les chasser. Il y a qu'une solution pour les chasser. Et vous avez deviné ce qu'il faut faire. Il faut faire une saignée.
Eh ben oui, il faut vider le trop-plein.
Il faut vider le trop-plein. Et puis il y a une autre thérapeutique. Quand ça va pas, c'est qu'il y a des choses mauvaises à l'intérieur du corps qui sentent mauvais, il faut les enlever. Eh bien, il faut lavementer. Et donc, vous avez donc les deux thérapeutiques qui vont gouverner la médecine pendant, grosso modo, 15 siècles.
Oui, oui.
Eh bien, c'est la saignée. Et le clistère, le lavement. Et tout le monde, y compris le roi Louis XIV,
C'est gnaré pour garer.
Exactement. Et Molière s'en est donné, bien sûr, à cœur joie, parce qu'il se moquait des galénistes et de Galiens. Mais le roi Louis XIV, par exemple, a été saigné parfois plusieurs fois par jour, et a été lavementé jusqu'à 15 fois par jour.
Et c'est assez étonnant de s'être focalisé en quelque sorte sur ces deux soupapes, sur ces...
Eh bien, il n'y avait pas tellement d'autres moyens de faire partir ces humeurs mauvaises. Il faut que ça quitte le corps. Qu'est-ce que vous voulez qui quitte le corps? Eh bien, naturellement, les matières fécales, parce qu'on voit bien que ça sent pas bon, donc il faut les enlever. Et puis, le sang mauvais, le sang noir, ce sang qui sûrement contient des tas de choses mauvaises, eh bien, il faut le vider aussi, et donc vous saignez et vous purgez.
Alors, ce que vous nous dites, c'est qu'il est donc médecin, au sens plein du terme, Galien, beaucoup plus que chirurgien, même s'il a fait office de rebouteux, de soigneur, de masseur, et évidemment de chirurgien auprès des gladiateurs,
Bien entendu, mais ces traités sont surtout une réflexion de médecin.
Alors, en feuilletant justement l'ouvrage de Véronique Boudon-Millot, il y a énormément, c'est d'une très grande richesse, pour les gens qui voudraient connaître dans le détail la vie de Galien, c'est tout à fait on peut dire incontournable, on se rend compte qu'il avait, ce qu'on retrouvera beaucoup plus tard chez des gens comme Vésale justement, ou Paré, il avait cette capacité à faire des observations en dehors de la tradition tout de même, notamment pour ce qui est de la réduction des fractures, notamment pour ce qui est de la cicatrisation des plaies. Il va inventer de nouvelles façons de faire cicatriser les plaies qui sont contre ce qu'on lui avait lui-même appris. Ça montre, ça dénote quand même d'une forme de grande indépendance d'esprit.
Ah oui, incontestable. Attendez, l'apport de Galien sur le plan médical a été très important. Il ne faut pas non plus tout jeter sous prétexte qu'il a fait quelques erreurs. Il a été un des plus grands médecins de l'Antiquité avec, bien sûr, Hippocrate, Aristote quand même, il ne faut pas l'oublier, et puis Galien. Et puis ensuite, ce sont les médecins arabes qui vont reprendre le fil de la tradition pour arriver...
Arabes et Perses, en fait, pour arriver
après, au XVIe siècle, avec l'école... Alors, vous avez cité Paris, bon, merci, vous avez cité Montpellier, merci, mais la grande école du XVIe siècle, c'est Padoue.
Padoue, hein, bien entendu. Alors, on peut dire de Galien qu'il devient, il acquiert sa réputation lorsqu'il est appelé par, alors je ne sais pas qui, de la poule ou de l'œuf d'ailleurs, mais lorsqu'il est appelé par l'empereur, c'est-à-dire quand il va devenir le médecin, et pas n'importe quel empereur, de Marc Aurèle en plus. Donc de philosophe à philosophe, ils ont dû bien s'entendre, forcément.
Très bien, il lui confie même le soin de ses propres fils, dont Commode, qui paraît-il ne l'était pas aussi autant qu'on veut bien le dire. Et donc il a une position absolument clé à Rome, c'est ce qu'il voulait, parce que c'est lui qui va à Rome, parce qu'il comprend bien en tant que jeune ambitieux, jeune Rastignac en quelque sorte de la médecine grecque, il dit je vais aller à Rome parce que c'est là où ça se passe et c'est là où je vais pouvoir faire la carrière que je veux faire.
Et c'est là qu'il va organiser ces fameux spectacles, si l'on peut dire, anatomiques. Alors,
et c'est court aussi, soyons honnêtes.
Et c'est court, oui, bien sûr. Il est, dit-on, un maître dans l'art oratoire, donc il a un sens absolument extraordinaire de ce que les latins appelaient la captatio benevolentiae, c'est-à-dire la capacité à séduire le public. Il organise des dissections et des vivisections, mais toujours sur des animaux, bien entendu.
Oui, même dans l'Antiquité, on ne fait pas de dissection humaine. Donc, on fait... En effet, comme vous l'avez dit, des dissections de différents animaux. D'ailleurs, il fait des erreurs parce qu'il observe bien l'utérus des herbivores qui est bifide. Eh bien, il dit la femme a un utérus bifide. Non, elle n'a pas un utérus bifide.
Il se trompe.
Et ainsi, il fait donc un certain nombre d'erreurs, mais qui sont des observations animales.
On lui suggère d'ailleurs d'utiliser des singes, dont certains ont dû comprendre qu'ils avaient des rapports très immédiats, des ressemblances très grandes avec le corps humain. Sauf que lui, justement, à cause même de cette ressemblance, proscrit l'utilisation des singes et préfère les cochons, notamment, par exemple.
Beaucoup chez les cochons, oui. Ouais.
Il ne veut pas, comme s'il avait lui-même intériorisé le tabou, il ne veut pas procéder à des dissections sur un cadavre de singe qui rappellerait trop l'être humain, tout simplement. Hein.
Mais, vous savez, une des grandes qualités de Galien, c'est de penser, alors là, nous rentrons encore dans le système grec, qu'il y a une force vitale. Cette force vitale, il l'appelle le pneuma. Ce pneuma a un rôle fondamental dans la vie et il est le don de Dieu, d'un Dieu unique qui donne la vie et dont l'œuvre peut être comprise par les médecins.
On se rend compte qu'à l'époque, la philosophie n'est jamais très loin de la médecine. Nous allons venir justement au philosophe, à l'auteur et à son incroyable postérité dans un instant.
Hippocrate dit oui, c'est des crêtes de coq. Et Galien répond non, c'est des gonocoques. Tous les deux ont raison, Vénus parfois vous donne de méchants coups de pied qu'un bon chrétien pardonne. Car s'il cause du tort aux attributs virils, il met rarement l'existence en péril. Eh bien oui, j'ai tout ça, rançon de mes fredaires. La barque pour Cythère est mise en quarantaine. Mais je n'ai pas encore, non, trois fois non, ce mal mystérieux dont on cache le nom.
Georges Brassens sur Europe 1 avec le bulletin de santé, un extrait en tout cas de ce titre. Nous sommes au cœur de l'histoire du célèbre médecin de l'Antiquité Galien de Pergame avec vous Franck Ferrand et votre invité Jean-Noël Fabiani, chef de service à l'hôpital européen Georges Pompidou où il dirige le département de chirurgie cardiovasculaire.
Alors, il faut dire Jean-Noël Fabiani que ce Galien a eu une immense réputation dans l'Antiquité, mais l'Empire romain finit par sombrer et l'on pourrait très bien imaginer qu'au Moyen-Âge, tout ça disparaît. Or, il y a un phénomène essentiel, c'est le rôle que va jouer l'Église dans la mise en avant des travaux de Galien.
Bien entendu, parce que, comme je vous l'ai dit, Galien croit en un Dieu unique. Et c'est ce que les pères de l'Église qui se cherchent à l'époque retiennent. Et ils cherchent une référence, et ils prennent Galien comme référence médicale, et ils vont imposer Galien comme référence, un peu comme parole d'évangile. Et ça va bien être le problème, parce que pendant les siècles qui vont suivre, si on ne suit pas son Galien, c'est à peu près comme si on était hérétique.
Et c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une théorie médicale qui vaut quasiment pour canon d'écriture, qui vaut quasiment Exactement. Pour dogme religieux, en
Absolument.
Fait.
Absolument.
Hein. Ça fait presque peur parce
on peut
imaginer que même dans le haut Moyen-Âge un certain nombre de praticiens aient déjà eu envie de s'éloigner un peu de Galien mais il n'était même pas question de le dire hein.
Mais ça peut alimenter un certain nombre de bûchers ce genre de plaisanterie. Et vous savez que on risquait sa vie à l'époque pour avoir fait des dissections. Vézal a failli brûler, heureusement, grâce à l'intervention de l'empereur. On a commué
de
ça.
De Charles Quint, en l'occurrence.
De Philippe II.
De Philippe II, oui.
On l'a commué ça en un pèlerinage à Jérusalem, dont il est mort, d'ailleurs, soit dit entre nous. Mais Calvin, par exemple, a quand même brûlé Servet à Genève, non pas vraiment parce qu'il avait raconté la vraie circulation sanguine pour d'autres raisons plus théologiques, mais enfin, ça a été un des arguments en disant qu'il avait fait des dissections dans sa vie. Donc, c'était vraiment grave. Au XVIe siècle, disséquer un mort, eh bien, mettait la vie de celui qu'il faisait en péril.
Oui, ça allait très loin.
Très loin.
Alors, il faut peut-être revenir sur les grands principes de Galien. On a parlé un peu de l'anatomie, même s'il a fait pas mal d'erreurs, hein, bien entendu.
Oui.
C'est quelqu'un qui fait beaucoup de physiologie, c'est en cela qu'il est médecin, bien entendu.
Exactement.
Il accorde à la chimie un rôle important.
Très important.
C'est-à-dire qu'en fait...
Alors, il va être le prince des apothicaires, en quelque sorte. Parce qu'il va beaucoup parler des simples, ce qu'on appelle les simples, c'est-à-dire en fait les plantes qui ont des actions... Et il arrive surtout à les mélanger à des excipients de façon à les rendre stables. C'est ce qu'on appelle une préparation galénique que l'on utilise toujours en pharmacie aujourd'hui. Et d'ailleurs, les pharmaciens d'aujourd'hui prêtent le serment de Galien depuis le XVIIe siècle.
Qui est l'équivalent pour les médecins du serment d'Hippocrate.
Tout à fait,
hein,
d'ailleurs, c'est très inspiré du serment d'Hippocrate.
Oui. Et donc, on peut dire qu'au moins pour les pharmaciens qui nous écoutent, Galien est présent quasiment quotidiennement, encore aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, un peu moins pour les physiologistes, parce que tout de même, il fait une erreur absolument énorme sur la circulation sanguine.
Alors voilà.
Alors, On a dit qu'on comprend vraiment pas, parce que pour Galien, ce que l'on mange, l'alimentation, eh bien, passe dans le foie, où il se produit ce qu'il appelle une coction, c'est-à-dire où ça se met à cuire, et ça fabrique du sang. Et ce sang part dans les veines, uniquement dans les veines, pour nourrir le corps.
Donc pas des artères, on ne parle pas d'artères là ?
On ne parle pas du tout des artères. D'ailleurs, pendant l'Antiquité, je vous rappelle que les artères contiennent de l'air. Parce que quand on dissèque un animal, on l'a saigné auparavant, et donc les artères sont vides. Donc aorte, ça tient de l'air. Donc, ah bah oui.
Ah oui, ça vient de l'air, d'accord, oui. Mais voyez.
Voilà. Et puis alors, il y a quand même la différence.
Un retour aux origines.
Et la différence entre un mort et un vivant pour quelqu'un qui est antique, eh bien, il y en a un qui est chaud et l'autre qui est froid. Alors, quel est l'organe qui donne le chaud dans le cœur, dans le corps? Eh bien, il y a un truc qui bouge tout le temps dans la poitrine. Eh bien, c'est obligatoirement la chaudière. Donc, le cœur n'est pas du tout un organe fait pour la circulation, pour Galien, pour Hippocrate, pour les autres.
C'est le foie, pour eux.
Oui, pour eux. Mais par contre, la chaudière, c'est le cœur. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il y a au-dessus deux soufflets, qui sont les poumons, qui sont là pour renforcer le feu. Hein, comme le soufflet de votre cheminée sert à réaviver le feu de votre âtre. C'est ça, la conception. Donc, pour Galien, le sang qui a été fabriqué dans le foie, va passer dans le cœur d'une façon absolument invraisemblable, puisqu'il traverse la cloison interventriculaire qui normalement est fermée, mais il pense qu'elle passe quand même. Et là, dans le cœur gauche, eh bien, il va récupérer la chaleur, le pneuma, l'élan vital, et là, il va partir vers la périphérie, où il va s'évaporer dans la transpiration. Alors, bien sûr, il n'y a pas du tout de notion de circulation, ça nous choque profondément aujourd'hui, parce qu'on a tous appris à l'école la circulation sanguine vue par Harvey, mais c'est quand même pendant 15 siècles ce que tout le monde va croire profondément.
Alors, avant la circulation sanguine, on découvre la circulation pulmonaire, en quelque sorte. Ça, c'est fondamental.
Ça, c'est un combat terrible. Alors, on prête la découverte de la circulation pulmonaire au XVIe siècle à Servet. Mm-hmm. Ça n'est pas vrai du tout.
Ah bon, ben alors voilà, je l'ai dit moi-même tout à l'heure.
Mais c'est pas vrai du tout. Celui qui a découvert la circulation pulmonaire, c'est un médecin qui vivait au Caire, au XIIIe siècle, et qui s'appelle Ibn el-Nafis. Il a parfaitement décrit la circulation pulmonaire. Ce texte a été traduit, évidemment, par un médecin italien qui s'appelait Andrea Alpago, qui vivait à Damas dans les années 1500, qui a traduit ce texte, qui l'a ramené à Padoue. Et vraisemblablement, quand même, on peut imaginer que et Servet, et Colombo, et Harvey, et tous les autres, ont lu ce texte,
oui,
s'en sont un peu inspirés, mais ils ont oublié simplement de citer quel était l'auteur. Vous voyez, ça peut arriver.
On ne cite pas toujours ses sources hein, dans l'histoire des sciences non plus.
Voilà.
C'est un peu comme dans la vie des lettres, finalement. Il y a une très grande volonté au 15e, 16e, et alors de plus en plus, hein, 17e siècle, de constater par soi-même et de faire d'expérimenter, en quelque sorte la médecine. Et d'ailleurs, on peut dire que là, la chirurgie va jouer un rôle important aussi.
Oui, mais rendons à César ce qui est à César. Le premier médecin qui véritablement va expérimenter, c'est William Harvey, encore à Padoue. Et il va véritablement démontrer la circulation sanguine, comment ça marche, comme disait
Chevalet.
Exactement. Comment ça marche? Eh bien, c'est lui qui va le faire en utilisant comme animal d'expérience la grenouille, en l'occurrence. Il va mettre des ligatures étagées et il va comprendre que le sang passe dans le cœur et que c'est le cœur qui est responsable. Il va compter la quantité de sang qu'il y a dans le ventricule, il va le multiplier par le nombre de battements et il va comprendre que ça ne marche pas, l'idée de Galien, et qu'il faut obligatoirement que le sang revienne à son point de départ pour que la circulation fonctionne. Et c'est lui le premier, l'ancêtre de Claude Bernard, en quelque sorte, l'ancêtre des grands physiologistes du 19e siècle, c'est William Harvey qui va faire des expériences, de la médecine expérimentale en quelque sorte. Véritablement, il faut rendre hommage à Harvey.
Alors juste un mot, parce qu'il nous reste peu de temps, mais un mot sur la postérité récente de Galien. C'est-à-dire qu'après toutes ces découvertes 17-18e siècle, on pourrait imaginer que Galien, ayant été mis en défaut presque sur toute la ligne, son nom deviendrait honni des médecins. Pas du tout, il reste aujourd'hui une référence très...
Le prince des médecins,
oui, c'est ça, oui.
C'est toujours le prince des médecins. Oui. Bien parce qu'on l'a dit, vous l'avez très bien dit, c'est un monstre sacré, c'est un surdoué de la médecine, il va avoir une force considérable, et puis qu'on le veuille ou non, même Harvey, qui pourtant était contre les idées de Galien, voyait encore des petites étincelles sur le cœur quand il se contractait parce qu'il n'avait pas oublié la chaudière, eh bien, nous sommes peut-être encore aujourd'hui impressionnés et imprégnés de l'énorme de ombre de Galien.
Ces siècles de ressassement des grandes idées de Galien. Un homme qui était en même temps un philosophe, un auteur, un écrivain, c'est peut-être de ce point de vue-là un modèle pour tous les médecins, si je puis dire.
Bien sûr, formidable.
C'est-à-dire qu'il...
Un homme de synthèse.
C'est ça, voilà.
C'est ce qui nous manque dans notre médecine actuelle. Nous sommes
parfois
tous des spécialistes.
Oui.
Nous sommes quand même des spécialistes. Et parfois, il faut des hommes de synthèse. Et Galien était quand même un homme de synthèse. On pourrait dire ça.
Il aura été, en tout cas, au-delà, évidemment, de ce personnage dont on a suivi presque aveuglément les principes, il aurait été celui qui a donné à la médecine vraiment ses lettres de noblesse, on peut le dire. Un mot, là aussi, sur la langue employée, puisque vous nous avez dit Hippocrate, Galien, ce sont, et pour cause, lui et Pergame, ce sont des Grecs, mais il s'exprime, il fait ses grands discours en latin, évidemment,
certes,
Galien.
Certes, mais quand il veut parler véritablement, il revient au grec, parce qu'on ne l'oublie pas, il est grec.
Et c'est de là que vient cette surutilisation des termes grecs dans la médecine,
bien
c'est
entendu,
ça hein.
Bien entendu.
C'est à ça qu'on le doit.
Exactement.
Merci beaucoup Jean-Noël Fabiani. Je rappelle les deux ouvrages, les deux tomes de vos histoires insolites qui ont fait la médecine. C'est publié chez Plon. Il y a là-dedans d'ailleurs une véritable mine. J'espère que vous reviendrez nous parler d'un certain nombre de ces grands chapitres. Et puis je rappelle le titre de l'ouvrage de Véronique Boudon-Millot, qui est donc publié aux Belles Lettres. C'est toute la garantie d'un travail important sur l'Antiquité. Ça s'appelle tout simplement Galien de Pergame, sous-titré Un médecin grec à Rome, et c'est une véritable mine, là encore, d'éléments non seulement sur la biographie de Galien, mais sur la vie des médecins de l'Antiquité. Merci beaucoup, Jean-Noël Fabiani.
Dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand répond à la question de Nathanaël sur l'expression « avoir la coqueluche pour quelqu'un ».
Retour aux origines.
Avec une question cet après-midi de Nathanaël qui nous l'a envoyé sur le site d'Europe 1, qui souhaite savoir s'il y a un lien entre la maladie qu'on appelle la coqueluche et l'expression « avoir la coqueluche pour quelqu'un ».
Pourriez-vous m'éclairer, dit Nathanaël, mais nous allons essayer. C'est vrai que c'est intéressant ce terme de coqueluche parce qu'il désigne plusieurs choses. D'un côté, vous avez la maladie, évidemment, la coqueluche, cette terrible maladie respiratoire qui provoque des toux convulsives, qui peut durer d'ailleurs assez longtemps. C'est une maladie qui s'éternise. Dans certains pays, on l'appelle la toux des 100 jours. Et puis, d'autre part, ce qu'on appelle la coqueluche ordinairement, ben c'est l'être aimé, le préféré, le chouchou. C'est un peu Elena Morna quand elle entre dans ce studio.
Merci,
c'est la coqueluche.
Merci,
bon. Et alors, on dit d'où vient le rapprochement entre ces deux termes. Eh bien, et c'est là que ça devient assez étonnant, il y a une troisième acception qu'on a oubliée et qui recouvre, c'est le cas de le dire, les deux autres. Le terme remonte au Moyen-Âge, en vérité. À cette époque, ce qu'on appelait une coqueluche, c'était une sorte de capuchon, vous savez, qu'on se mettait sur les épaules et qui couvrait toute la tête, une sorte de capuche amovible, si vous voulez, une grosse coiffe. Et il était, on peut dire que cette coiffe donnait évidemment une sensation de chaleur. La tête était engoncée dans ce capuchon, exactement comme lorsqu'on a la coqueluche. On a la même, lorsque vous êtes affecté, lorsque vous avez la coqueluche, vous avez la tête lourde, chaude, comme si vous portiez ce capuchon. Vous voyez, c'est de là que vient le terme de coqueluche, médicalement. Et de la même façon, être la coqueluche de quelqu'un, c'est directement lié à ce sens initial, puisque depuis très longtemps, on a l'habitude de désigner le fait d'avoir un emportement amoureux, d'avoir des transports, en quelque sorte, à la notion d'être couvert de cette façon. Par exemple, on disait autrefois être coiffé de quelqu'un, vous voyez. On parle aussi d'avoir le béguin pour quelqu'un. Le béguin, c'était de la même façon une coiffe de fine toile qui était portée par les religieuse. Vous savez que lorsque vous allez vous promener en Flandre, en Belgique actuellement, vous avez encore des béguinages par exemple, hein, c'est la même histoire. Être coiffé de quelqu'un, ça voulait dire être aveuglé par quelqu'un. Avoir le béguin, c'était avoir quelqu'un dans la tête, si vous voulez. Donc, ce terme ancien un médiéval de coqueluche, qui désignait le capuchon à l'origine, il a été utilisé en médecine pour désigner la maladie, et puis dans le vocabulaire courtois pour désigner le fait de s'être épris d'une personne. Avoir la coqueluche, c'est un peu avoir le béguin. J'espère que nous avons, selon ses souhaits, un peu éclairé la lanterne de Nathanaël.